Voici l'épreuve de compréhension orale, français programme long, automne 2011. Elle comprend 6 parties. Vous aurez des instructions avant chacune des parties. Écoutez bien les documents sonores. Vos réponses doivent se baser sur les documents entendus. L'épreuve commence. Vous entendrez la première partie de l'épreuve d'abord en entier, puis en plusieurs sections. La voici en entier.
Et si les chaussures se vendaient comme les bouteilles de soda et les cosmétiques comme des paquets de chips? En février 2010, les magasins Sephora se sont lancés, en partenariat avec le créateur de mode Calvin Klein, dans une nouvelle forme de shopping. En effet, ils ont installé dans quelques stations du métro parisien des machines automatisées qui proposent des bouteilles du célèbre parfum CK1 à un prix très attirant. Le but de ces nouvelles boutiques de poche est de créer le buzz, de faire parler d'un produit. L'usage des boutiques de poche est nouveau en France, mais il est très en vogue dans les pays anglo-saxons. Pourtant, c'est d'abord au Japon qu'est apparu ce type de machine. Aujourd'hui, dans ce pays, une grande variété de produits sont distribués sous cette forme. Des œufs frais, des fleurs, des parapluies. En 2008, la marque japonaise de basket Onitsuka Tiger a installé à Londres une boutique de poche très design pour lancer ses nouveaux modèles. Plus génial encore, la marque anglaise de chaussures Rolasol a placé des distributeurs dans des boîtes de nuit londoniennes pour soulager les pieds fatigués des clientes. En Californie, il n'est pas rare non plus d'acheter un iPod comme on le ferait pour une barre chocolatée.
Étudiez les questions 1 et 2.
Et si les chaussures se vendaient comme les bouteilles de soda et les cosmétiques comme des paquets de chips? En février 2010, les magasins Sephora se sont lancés, en partenariat avec le créateur de mode Calvin Klein, dans une nouvelle forme de shopping. En effet, ils ont installé dans quelques stations du métro parisien des machines automatisées qui proposent des bouteilles du célèbre parfum CK1 à un prix très attirant. Le but de ces nouvelles boutiques de poche est de créer le buzz, de faire parler d'un produit.
Répondez aux questions 1 et 2 et étudiez 3 et 4.
L'usage des boutiques de poche est nouveau en France, mais il est très en vogue dans les pays anglo-saxons. Pourtant, c'est d'abord au Japon qu'est apparu ce type de machine. Aujourd'hui, dans ce pays, une grande variété de produits sont distribués sous cette forme. Des œufs frais, des fleurs, des parapluies. En 2008, la marque japonaise de basket Onitsuka Tiger a installé à Londres une boutique de poche très design pour lancer ses nouveaux modèles. Plus génial encore, la marque anglaise de chaussures Rolasol a placé des distributeurs dans des boîtes de nuit londoniennes pour soulager les pieds fatigués des clientes. En Californie, Il n'est pas rare non plus d'acheter un iPod, comme on le ferait pour une barre chocolatée.
Répondez aux questions 3 et 4. Dans la deuxième partie de l'épreuve, Joséphine, 26 ans, nous parle de son séjour au Brésil. Vous entendrez son récit d'abord en entier, puis en plusieurs sections.
On dit toujours que s'installer dans un pays étranger est un défi. Mais moi, je savais depuis mon entrée à l'université que je ferais ma dernière année d'études à l'étranger. Après une rupture violente avec mon petit ami de l'époque, j'étais si malheureuse que j'ai voulu me couper totalement de la France. J'ai appris qu'on proposait aux étudiants une nouvelle destination, le Brésil, où j'avais passé mes vacances en 2005. Depuis, je rêvais d'y retourner. J'ai pris quelques cours de portugais et j'ai passé un entretien de motivation où j'ai su être persuasive. Et finalement, j'ai fait partie des 3 étudiants qui ont été choisis pour faire une année d'études à l'Université de Rio. Là-bas, la vie quotidienne était très agréable, même si souvent il faisait 40 degrés. J'habitais en ville, dans une maison spacieuse avec 10 autres étudiants de l'université. On avait même une piscine pour nous. Pendant plusieurs mois, je n'ai parlé avec aucun Français. Par contre, je me suis fait un tas d'amis brésiliens. Ils corrigeaient mon portugais avec beaucoup de gentillesse. C'était formidable. Mes amis m'ont fait visiter des endroits magnifiques partout dans le pays. Je me suis rendu compte qu'il y a plein de cultures différentes. L'Amazonie et ses Indiens, le Nord-Est et sa culture africaine. On trouve même dans ce pays la plus grande communauté japonaise hors Japon. Tout le monde peut être brésilien. Mais le problème au Brésil, c'est qu'il y a une énorme fracture sociale entre les habitants. Riches et pauvres, noirs et blancs par exemple. C'est pas toujours facile d'être noir dans ce pays. En général, les Brésiliennes sont très influencées par la beauté occidentale et les femmes noires n'apprécient pas toujours leurs origines africaines. Comme je suis une femme noire moi-même, j'ai été vraiment déçue par cette situation. Mon année brésilienne m'a ouvert l'esprit et m'a permis de réfléchir sur moi-même. Au niveau professionnel aussi, cela vaut le coup. Moi, par exemple, aujourd'hui que mes études sont terminées, je travaille sur un projet lié au Brésil. Et puis en plus, vivre à l'étranger, c'est la seule manière d'apprendre bien une nouvelle langue.
Étudiez les questions 5 et 6.
On dit toujours que s'installer dans un pays étranger est un défi. Mais moi, je savais depuis mon entrée à l'université que je ferais ma dernière année d'études à l'étranger. Après une rupture violente avec mon petit ami de l'époque, j'étais si malheureuse que j'ai voulu me couper totalement de la France. J'ai appris qu'on proposait aux étudiants une nouvelle destination, le Brésil, où j'avais passé mes vacances en 2005. Depuis, je rêvais d'y retourner. J'ai pris quelques cours de portugais et j'ai passé un entretien de motivation où j'ai su être persuasive. Et finalement, j'ai fait partie des 3 étudiants qui ont été choisis pour faire une année d'études à l'Université de Rio.
Répondez aux questions 5 et 6 et étudiez 7 et 8.
Là-bas, la vie quotidienne était très agréable, même si souvent il faisait 40 degrés. J'habitais en ville, dans une maison spacieuse avec 10 autres étudiants de l'université. On avait même une piscine pour nous. Pendant plusieurs mois, je n'ai parlé avec aucun Français. Par contre, je me suis fait un tas d'amis brésiliens. Ils corrigeaient mon portugais avec beaucoup de gentillesse. C'était formidable. Mes amis m'ont fait visiter des endroits magnifiques partout dans le pays. Je me suis rendu compte qu'il y a plein de cultures différentes. L'Amazonie et ses Indiens, le Nord-Est et sa culture africaine. On trouve même dans ce pays la plus grande communauté japonaise hors Japon. Tout le monde peut être brésilien.
Répondez aux questions 7 et 8 et étudiez 9 et 10.
Mais le problème au Brésil, c'est qu'il y a une énorme fracture sociale entre les habitants. Riches et pauvres, noirs et blancs par exemple. C'est pas toujours facile d'être noir dans ce pays. En général, les Brésiliennes sont très influencées par la beauté occidentale et les femmes noires n'apprécient pas toujours leurs origines africaines. Comme je suis une femme noire moi-même, j'ai été vraiment déçue par cette situation. Mon année brésilienne m'a ouvert l'esprit et m'a permis de réfléchir sur moi-même. Au niveau professionnel aussi, cela vaut le coup. Moi, par exemple, aujourd'hui que mes études sont terminées, je travaille sur un projet lié au Brésil. Et puis en plus, vivre à l'étranger, c'est la seule manière d'apprendre bien une nouvelle langue.
Répondez aux questions 9 et 10. La troisième partie de l'épreuve est un entretien avec le sociologue Vincenzo Cicchelli. Vous entendrez l'entretien d'abord en entier, puis en plusieurs sections.
Monsieur Cicchelli, comment les jeunes passent-ils à la vie adulte aujourd'hui?
Eh bien, d'abord, les jeunes Français sont mieux formés que par le passé. Ils ont aussi accès à la consommation, au voyage. Et pourtant, les conditions de passage à la vie adulte sont devenues beaucoup plus compliquées. Dans le passé, on devenait adulte en s'opposant à ses parents. Aujourd'hui, ce processus se fait avec les parents. Ils aident et accompagnent les jeunes. Du point de vue des goûts et de la vie sentimentale, les jeunes n'ont jamais été aussi rapidement autonomes. Mais dans le même temps, ils n'ont jamais été aussi longtemps dépendants des adultes et de la société, socialement et économiquement. La société leur offre un nombre de plus en plus important d'aides pour s'intégrer dans le monde professionnel. De plus, les jeunes quittent de plus en plus tard le domicile de papa-maman.
Quels sont les problèmes que pose cette nouvelle situation?
Cette évolution représente des dépenses supplémentaires pour l'État. La France, contrairement aux autres pays du sud de l'Europe, a une culture de l'autonomie des jeunes, comme dans les pays du Nord. Malheureusement, l'État français n'a pas les moyens financiers nécessaires pour aller jusqu'au bout. Les jeunes, qui voudraient être autonomes, vivent très mal cette situation de dépendance financière.
Aujourd'hui, on pousse les jeunes à obtenir au moins un diplôme. Est-ce que le diplôme suffit pour leur donner confiance?
On pense souvent que les diplômés trouvent plus facilement un emploi que les autres. Et c'est vrai. Pourtant, beaucoup de jeunes ont aujourd'hui peur du déclassement. C'est-à-dire qu'ils font plus d'études que leurs parents. Mais ils ont quand même peur de ne pas atteindre le même niveau de vie que la génération précédente. Une inquiétude que les Français partagent d'ailleurs avec les jeunes Grecs, Italiens et Espagnols.
Étudiez les questions 11 et 12.
Monsieur Tchikeli, comment les jeunes passent-ils à la vie adulte aujourd'hui?
Eh bien, d'abord, les jeunes Français sont mieux formés que par le passé. Ils ont aussi accès à la consommation, au voyage. Et pourtant, les conditions de passage à la vie adulte sont devenues beaucoup plus compliquées. Dans le passé, on devenait adulte en s'opposant à ses parents. Aujourd'hui, ce processus se fait avec les parents. Ils aident et accompagnent les jeunes. Du point de vue des goûts et de la vie sentimentale, les jeunes n'ont jamais été aussi rapidement autonomes. Mais dans le même temps, ils n'ont jamais été aussi longtemps dépendants des adultes et de la société, socialement et économiquement. La société leur offre un nombre de plus en plus important d'aides pour s'intégrer dans le monde professionnel. De plus, les jeunes quittent de plus en plus tard le domicile de papa-maman.
Répondez aux questions 11 et 12 et étudiez 13 et 14.
Quels sont les problèmes que pose cette nouvelle situation?
Cette évolution représente des dépenses supplémentaires pour l'État. La France, contrairement aux autres pays du sud de l'Europe, a une culture de l'autonomie des jeunes, comme dans les pays du Nord. Malheureusement, l'État français n'a pas les moyens financiers nécessaires pour aller jusqu'au bout. Les jeunes, qui voudraient être autonomes, vivent très mal cette situation de dépendance financière.
Aujourd'hui, on pousse les jeunes à obtenir au moins un diplôme. Est-ce que le diplôme suffit pour leur donner confiance?
On pense souvent que les diplômés trouvent plus facilement un emploi que les autres. Et c'est vrai. Pourtant, beaucoup de jeunes ont aujourd'hui peur du déclassement. C'est-à-dire qu'ils font plus d'études que leurs parents. Mais ils ont quand même peur de ne pas atteindre le même niveau de vie que la génération précédente. Une inquiétude que les Français partagent d'ailleurs avec les jeunes Grecs, Italiens et Espagnols.
Répondez aux questions 13 et 14.
Thank you.
Vous entendrez la quatrième partie de l'épreuve, d'abord en entier, puis en plusieurs sections.
Sandrine et Richard ont gagné 7 millions d'euros au loto il y a 4 ans. Leurs enfants ne sont toujours pas au courant. Au moment de ce coup de chance, Sandrine était vendeuse dans un magasin de chaussures et Richard travaillait dans une crêperie. Ils ont fait croire à leurs enfants qu'ils avaient vendu le magasin de chaussures et la crêperie pour pouvoir acheter la somptueuse maison avec piscine qu'ils occupent maintenant. Trop petits pour comprendre, les enfants n'ont pas posé de questions. Papa a racheté une brasserie, mais pour les enfants, le seul changement important, c'est que maman a arrêté de travailler pour s'occuper d'eux. L'été dernier, toute la famille a passé 15 jours dans un hôtel 4 étoiles. C'est une exception. D'habitude, quand la famille part en vacances, elle ne dépense guère plus qu'avant. Pourtant, Richard et Sandrine, eux, ont complètement changé leur train de vie. Quand ils partent en amoureux, ils n'hésitent plus à descendre dans des palaces. Ils se sont tous les deux offert une Rolex à 10 000 euros. Ils ont aussi renouvelé leur garde-robe pour 40 000 euros chacun. Mais le couple évite soigneusement de se faire remarquer et choisit donc des vêtements à l'apparence modeste. Selon Sandrine, ils n'achètent pas de haute couture. Une étude récente a montré que, le plus souvent, les millionnaires du loto ont des envies raisonnables. Ils commencent par acheter leur résidence principale, ils investissent dans des placements sûrs et mettent de l'argent de côté pour l'éducation de leurs enfants. Pourtant, l'argent peut parfois leur apporter des satisfactions auxquelles ils aspiraient, mais qui étaient inaccessibles. Ainsi, Sandrine s'est acheté cette semaine un nouveau sac, un Vuitton, à 4 000 euros.
Étudiez les questions 15 et 16.
Sandrine et Richard ont gagné 7 millions d'euros au loto il y a 4 ans. Leurs enfants ne sont toujours pas au courant. Au moment de ce coup de chance, Sandrine était vendeuse dans un magasin de chaussures et Richard travaillait dans une crêperie. Ils ont fait croire à leurs enfants qu'ils avaient vendu le magasin de chaussures et la crêperie pour pouvoir acheter la somptueuse maison avec piscine qu'ils occupent maintenant. Trop petits pour comprendre, les enfants n'ont pas posé de questions. Papa a racheté une brasserie, mais pour les enfants, le seul changement important, c'est que maman a arrêté de travailler pour s'occuper d'eux.
Répondez aux questions 15 et 16 et étudiez 17 et 18.
L'été dernier, toute la famille a passé 15 jours dans un hôtel 4 étoiles. C'est une exception. D'habitude, quand la famille part en vacances, elle ne dépense guère plus qu'avant. Pourtant, Richard et Sandrine, eux, ont complètement changé leur train de vie. Quand ils partent en amoureux, ils n'hésitent plus à descendre dans des palaces. Ils se sont tous les deux offert une Rolex à 10 000 euros. Ils ont aussi renouvelé leur garde-robe pour 40 000 euros chacun. Mais le couple évite soigneusement de se faire remarquer et choisit donc des vêtements à l'apparence modeste. Selon Sandrine, ils n'achètent pas de haute couture.
Répondez aux questions 17 et 18 et étudiez la question 19.
Une étude récente a montré que, le plus souvent, les millionnaires du loto ont des envies raisonnables. Ils commencent par acheter leur résidence principale, ils investissent dans des placements sûrs et mettent de l'argent de côté pour l'éducation de leurs enfants. Pourtant, l'argent peut parfois leur apporter des satisfactions auxquelles ils aspiraient, mais qui étaient inaccessibles. Ainsi, Sandrine s'est acheté cette semaine un nouveau sac, un Vuitton, à 4000 euros.
Répondez à la question 19. La cinquième partie de l'épreuve comprend cinq courts échanges entre Sabine, Isabelle et Jean-Michel. Vous entendrez chaque échange une seule fois. Étudiez la question 20.
Mais Isabelle, qu'est-ce que c'est que cette croûte ?
Ah, c'est le nouveau tableau de Jean-Michel.
Ah bon ? Mais c'est complètement nul. Il a fait si jolie toile.
Oh, tu exagères, Sabine. Disons que... oui, c'est différent. Attention, le voilà.
Alors, les filles, comment vous trouvez ma dernière production ?
Ah, c'est très expressif, hein ?
Et toi, Sabine, qu'est-ce que t'en penses, ma belle ?
Oui, c'est tout à fait, disons, intéressant.
Répondez à la question 20 et étudiez 21.
Jean-Michel, qu'est-ce que vous faites pour les vacances, Isabelle et toi ?
Isabelle veut partir dans les Alpes faire un stage de tennis. Et moi, je veux aller passer une semaine en Italie et peut-être quelques jours à New York.
Ah bon ? Vous ne passerez pas vos vacances ensemble alors ?
Ah si, en août, on ira à Rome. Et toi, tu fais quoi ? Tu vas à Helsinki, comme d'habitude ?
Répondez à la question 21 et étudiez 22.
Bah, Isabelle, tu en fais une tête. Qu'est-ce qui ne va pas ?
Jean-Michel est à New York pour une semaine. Il m'a demandé de l'accompagner. J'ai refusé. Et maintenant, il me manque terriblement.
Allez, ne sois pas ridicule. Il revient bientôt.
Mais je pense à lui tout le temps. J'aurais jamais dû le laisser partir sans moi.
Répondez à la question 22 et étudiez 23.
Allô Sabine, tu sais où est Isabelle ?
Bah, elle n'est pas avec toi ?
Bah non, si elle était avec moi, je ne te demanderais pas si elle est avec toi. Réfléchis un peu.
Vous ne deviez pas aller au cinéma ensemble ?
Si, justement, je suis devant le cinéma tout seul. Tu comprends rien ou quoi ?
Oh ça va, hein ? J'essaie de t'aider, moi. Si tu es aussi désagréable, je ne te parle plus.
Répondez à la question 23 et étudiez 24.
Je peux te parler, Isabelle ?
Attends, je suis occupée.
Mais je veux juste te dire un mot.
Laisse-moi tranquille, j'ai besoin de me concentrer.
J'en ai pour une minute, c'est important.
Chut ! Je suis en train de réfléchir au menu et d'écrire le billet de course pour le dîner de demain. Pour l'anniversaire de ton père. Et la boucherie ferme dans 10 minutes.
Justement, tu peux arrêter, le dîner est annulé.
Répondez à la question 24. La dernière partie de l'épreuve est constituée de 5 petites nouvelles. Vous entendrez chaque nouvelle 2 fois de suite. Écrivez vos réponses sur la face A de la feuille réponse. Étudiez la question A. Voici la première nouvelle.
Chaque été, depuis 7 ans, le festival Ciné Guinguette installe son écran et son projecteur sur les places des villages de la région Midi-Pyrénées. Ce soir, ce spectacle tout public aura lieu dans le petit village de Cassagnabert. Les organisateurs attendent un public nombreux. Chaque été, depuis 7 ans, le festival Ciné Guinguette installe son écran et son projecteur sur les places des villages de la région Midi-Pyrénées. Ce soir, ce spectacle tout public aura lieu dans le petit village de Cassagnabert. Les organisateurs attendent un public nombreux.
Répondez à la question A et étudiez la question B. Voici la deuxième nouvelle.
Mercredi, c'est le jour de marché aux vêtements dans le village de Perrier. Le centre du village se remplit de commerçants qui installent leurs stands sur la place et en été aussi dans les rues avoisinantes. Ce mercredi 28 juillet, la fréquentation était largement supérieure à l'habitude sur ce marché qui attire toutes les semaines des clients de toute la région. Mercredi, c'est le jour de marché aux vêtements dans le village de Perrier. Le centre du village se remplit de commerçants qui installent leurs stands sur la place et en été aussi dans les rues avoisinantes. Ce mercredi 28 juillet, la fréquentation était largement supérieure à l'habitude sur ce marché qui attire toutes les semaines des clients de toute la région.
Répondez à la question B et étudiez la question C. Voici la troisième nouvelle.
Le cirque Medrano va faire escale à Thonon-les-Bains les 4 et 5 août avec 2 spectacles quotidiens à 18h et 20h30. Il réunit des artistes venus du monde entier et souvent plusieurs fois récompensé dans les festivals de cirque les plus prestigieux à Monte-Carlo, Rome ou Pékin. Le cirque Medrano va faire escale à Thonon-les-Bains les 4 et 5 août avec deux spectacles quotidiens à 18h et 20h30. Il réunit des artistes venus du monde entier et souvent plusieurs fois récompensé dans les festivals de cirque les plus prestigieux à Monte-Carlo, Rome ou Pékin.
Répondez à la question C et étudiez la question D. Voici la quatrième nouvelle.
L'Office de tourisme de Cabourg et le Théâtre de la Côte Fleurie proposent aujourd'hui une visite à pied un peu particulière de cette ville normande. À la tombée de la nuit, des personnages du passé, joués par des acteurs, viendront à la rencontre des vacanciers dans les rues de la ville. Ils leur conteront la vie de la petite commune entre le milieu du XIXe siècle et les années 1920. Cette promenade insolite débutera à 21h. L'Office de tourisme de Cabourg et le Théâtre de la Côte Fleurie proposent aujourd'hui une visite à pied un peu particulière de cette ville normande. À la tombée de la nuit, des personnages du passé, joués par des acteurs, viendront à la rencontre des vacanciers dans les rues de la ville. Ils leur conteront la vie de la petite commune entre le milieu du XIXe siècle et les années 1920. Cette promenade insolite débutera à 21h.
Répondez à la question D et étudiez la question E. Voici la cinquième nouvelle.
Les cinq labyrinthes de la ferme de Galy à Saint-Cyr-l'École accueillent petits et grands tout l'été. L'ensemble est entièrement composé de végétaux, de maïs comme de fleurs. Cette année, le froid et les pluies du mois de juin ont retardé la pousse de ces plantes et la ferme a dû repousser d'une semaine l'ouverture de ces labyrinthes. La ferme de Galy est ouverte tous les jours de 11h à 18h. Les cinq labyrinthes de la ferme de Galy à Saint-Cyr-l'École accueillent petits et grands tout l'été. L'ensemble est entièrement composé de végétaux, de maïs comme de fleurs. Cette année, le froid et les pluies du mois de juin ont retardé la pousse de ces plantes et la ferme a dû repousser d'une semaine l'ouverture de ces labyrinthes. La ferme de Galy est ouverte tous les jours de 11h à 18h.
Répondez à la question E. Nous voici à la fin de l'épreuve. Vous avez encore 8 minutes pour porter vos réponses sur le formulaire à lecture optique et pour revoir vos réponses écrites sur la feuille réponse. N'oubliez pas les renseignements qu'on vous demande. Merci.